France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis dans le désert saoudien à Alula, terrain de recherche incroyable pour les archéologues qui découvrent ici des traces, pour certaines très préservées, des civilisations nabatéennes. Et c'est la France qui chapeaute depuis 2018, en coopération avec la Commission royale d'Alula, les recherches historiques, mais aussi la mise en valeur de ce patrimoine majeur pour l'humanité. Dans un paysage qui dépasse toute imagination, ces trésors historiques cohabitent désormais avec une présence de plus en plus intense de l'art contemporain. Parmi les nombreux projets fous créés ici à Alula, un centre culturel, certainement le plus instagrammable du monde.
Nicolas Lefebvre, je suis le directeur tourisme et hospitalité de l'Agence française pour le développement d'Alula.
Merci de nous accueillir ici à Alula. On est en plein milieu du désert et chose très étonnante, c'est que au milieu de ce paysage majestueux et vraiment désert au sens premier du terme, eh bien, il y a un immense espace culturel, un centre culturel, un théâtre complètement recouvert de miroirs. C'est très impressionnant et très beau à voir. Est-ce que vous pourriez nous dire l'histoire de ce lieu ?
Oui, je peux vous raconter rapidement. En fait, tout ça est parti du fait que, au tout début du projet Alula, le choix a été fait par les dirigeants de la Commission royale pour Alula de commencer par un festival. À l'époque, Alula n'existait pas quasiment en tant que destination touristique.
On parle de quelle année, là, à peu près ?
On est en 2018, donc il y a à peu près rien, enfin, il n'y a même rien. Le projet vient juste de commencer. Et l'idée des dirigeants d'époque, c'est de dire, pour commencer à faire connaître ce lieu et cette destination, on va faire un festival. On peut créer quelque chose d'éphémère, de ponctuel, qui va permettre de parler de la destination sans qu'elle existe vraiment. Et donc, qui dit ça, dit évidemment construction d'un lieu de spectacle. Et donc, la décision a été prise de construire ce théâtre. Et donc, la Commission royale a commandé ce bâtiment éphémère à un cabinet d'architectes italien qui s'appelle Gioforma de Milan et qui a eu cette idée incroyable en fait de faire un miroir. Sur l'idée très simple, j'ai entendu l'architecte en parler en disant en fait on n'imaginait pas construire quelque chose à cet endroit-là, c'était inimaginable.
Parce que le site est très très beau.
Le site est magnifique, vous l'avez vu, hein, c'est des montagnes, c'est des falaises, c'est du sable, il n'y a rien, c'est un vrai désert au sens propre du terme. Et donc, son idée, c'est de dire on ne peut rien construire. Donc, la seule chose qu'on peut imaginer, c'est un miroir qui reflète le paysage. Voilà. Et donc, il a construit ce bâtiment qui est donc effectivement qui a la forme d'un qui est un rectangle,
un gros cube
en forme de rectangle qui est recouvert de miroirs et donc qui reflète effectivement le paysage alentour, le ciel, les falaises, les montagnes, le sable, les dunes de sable.
Ce qui fait que parfois même il disparaît. Selon l'angle dans lequel on est, on ne voit pas qu'il y a cet énorme bâtiment devant nous.
C'est ça, c'était l'idée de dire, voilà, si je fais un miroir, il va se marier, se fondre dans le paysage. Et c'est vrai, alors oui. c'est un très bel objet, parce qu'on le voit quand même, oui. On ne peut pas dire qu'on ne le voit pas, mais on le discerne, et c'est un espèce d'objet très, très étrange. Et donc c'était un bâtiment éphémère donc pour le festival, et il a tellement convaincu tout le monde que la décision a été prise, 2 ans après, de le transformer en bâtiment permanent.
Vous pourriez nous en faire la visite ?
Oui, avec plaisir, c'est un endroit exceptionnel, mais c'est aussi un magnifique bâtiment, comme vous pouvez le voir, qui est un équipement multifonctionnel, puisqu'on peut bien sûr y accueillir, c'est sa fonction principale, des concerts, des spectacles, des conférences, mais aussi des expositions, comme c'est le cas en ce moment avec cette exposition d'art contemporain saoudien.
Et dans le spectacle vivant, vous parliez de concerts et de spectacles, quel est le type d'artistes qui ont déjà été accueillis ici ?
Bah, un petit peu tous les genres. On a eu de la musique classique, on a eu Renaud Capuçon pour donner des exemples français, mais on a eu aussi la variété américaine, on a eu Alicia Keys, on a eu Lionel Richie, on a eu Bruno Mars, des gens comme ça, mais aussi de la variété du Moyen-Orient. Donc il y a des grands chanteurs libanais, des chanteuses libanaises, des chanteurs égyptiens, des chanteurs saoudiens. Qui se sont produits ici aussi, voilà.
Alors ce qui est étonnant, vous mentionnez ces grandes stars internationales, on est ici au milieu du désert, donc peut-être la première question c'est qui vient ?
Ceux qui viennent aujourd'hui, c'est principalement des Saoudiens. des Saoudiens et plus généralement, je dirais, des gens de la région au sens du Moyen-Orient.
Donc on vient pour voir le concert, par exemple, d'Alicia Keys.
Absolument, absolument. Et je peux vous dire que ça, c'est nouveau. L'élément aussi à avoir en tête, c'est que tout ça, c'est nouveau pour l'Arabie Saoudite. Le fait d'avoir des concerts de musique moderne, de variété, de musique classique, c'est nouveau. Et donc ça, c'est aussi une des forces d'attraction pour les Saoudiens d'Alula. Il y a évidemment toutes ces merveilles d'Alula, point de vue archéologique, historique, paysage, naturel et tout ça. Mais il y a aussi le fait qu'ici, on vient voir des spectacles qui sont quelque chose de nouveau pour l'Arabie Saoudite. Il y avait des collectionneurs saoudiens qui achetaient de l'art, qui avaient de l'art chez eux. Mais le fait de montrer de l'art contemporain en Arabie Saoudite, ça fait 3 ans.
Oui, parce qu'en fait, l'espace d'exposition est lui aussi éphémère, c'est-à-dire construit à chaque fois pour l'exposition du moment.
Exactement. Il est dessiné, conçu et construit spécialement pour accueillir une exposition, l'exposition du moment. Il y en a en principe une par an, quelquefois deux.
Qu'est-ce qu'on entend dans le casque là?
Là, c'est un bruit qui mixe à la fois du métal, un bruit très métallique, et à la fois ça rappelle des sonorités orientales. C'est assez intriguant.
Parce que là, sur l'écran devant nous, on voit deux mains qui sont en train de jouer avec un œilleton.
Avec un juda, ouais.
Un juda.
Mais en fait, moi, c'était une autre que je regardais vidéo. Pour ça, c'était celle de...
Ah, voilà.
Et en fait, c'était l'ouverture comme un cadenas qu'on n'arrive pas à ouvrir. Et du coup, on se sent oppressé parce qu'on sent qu'il n'arrive pas à ouvrir la porte. C'était exactement ça.
Là, on vient d'arriver dans un immense hall. C'est quoi? C'est avant d'entrer au spectacle, on attend ici?
Ouais, on peut dire que c'est le foyer.
Le lieu de convivialité. Très beau.
Très bel endroit.
Et très haut.
Très haut. Très haut de plafond. Je sais pas comment ça représente, mais il y a au moins 7 mètres sous plafond, là, au minimum. Ouais.
Donc la clou du spectacle, on va entrer dans la salle. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Ah voilà, ils ont ouvert la porte.
Donc on va pouvoir aller voir cette très belle salle du théâtre de Maraya.
Ah ouais, alors là, dès qu'on rentre, on voit tout de suite cette hauteur sous plafond, toujours très impressionnante.
Exactement, très belle salle. Relativement petite en capacité parce qu'il y a 550 places, mais vous allez voir, très confortable.
550 places, mais rappelons qu'on est au milieu du désert quand même.
Absolument, absolument, absolument. Mais il y a une espèce de disproportion entre le nombre de places et la salle qui est magnifique.
Magnifique.
Voilà, on a beaucoup plus de places que dans un théâtre parisien.
Et un très grand plateau, hein. Ah oui, l'ouverture est très grande. Incroyable.
C'est magnifique, qui était une idée évidemment de l'architecte qui a conçu cette salle. C'est comme vous voyez, le fond est un grand, grande surface vitrée qui donne directement sur le paysage. Voilà. Alors là, on ne s'en rend pas bien compte, parce qu'il y a un reflet de la salle, mais dans la journée, effectivement, ou quand c'est éclairé, on voit la montagne. En fond de décor.
Qui nous entoure, d'accord. Exactement. Donc comme une immense baie vitrée en face du gradin.
Exactement.
L'autre grand pan culturel de cette région, eh bien, ce sont les courses de chameaux. D'autant plus que l'année 2024 a été décrétée année du chameau, animal vital dans la vie locale et ce depuis des siècles. Et se dispute ces jours-ci à Alula la deuxième édition de la Alula Camel Cup. Bonjour.
Bonjour.
Vous entendez parler français, je me permets de vous poser quelques questions. Vous étiez déjà venu à une course de chameaux?
Alors j'étais venu en 2020 pour le même concept et c'était très sympa et puis j'ai décidé de revenir cette année.
Vous pouvez nous dire ce qu'on vient de voir? Donc en fait il y a des chameaux qui courent mais il n'y a pas de jockey sur leur dos.
Alors ceux qui ont des robots, c'est qui ont en fait des sponsors. Et ceux qui n'ont pas de robots, c'est juste pour la participation en fait.
D'accord.
Juste pour en fait booster le jeu et avoir plus de participants.
Et les voitures qu'on voit suivre les chameaux, elles sont là pour diriger à distance ou...
Exactement, diriger à distance. Aussi, s'il y a un incident, ils peuvent intervenir en même temps.
Et donc, en fait, le principe de ces courses, c'est vraiment de voir quel est le chameau qui va le plus vite et le récompenser à la fin. C'est le plus rapide qui gagne.
Exactement, c'est le jeu. Ils veulent savoir qui a le chameau le mieux formé, mieux prêt pour la course.
Merci beaucoup, on va suivre ça, merci.
Merci.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, suite de notre découverte d'Alula, nous nous intéresserons aux recherches archéologiques.
Merci Marie, à demain.